Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Emeline Amétis.
C'est parti !
Amitié, communauté ou solidarité, le terme sororité est-il un label vide de sens? Et surtout, à qui bénéficie la sororité? On va en parler cette semaine avec Emeline. Salut.
Salut, ça va?
Oui, et toi?
Oui, j'y croyais plus trop, mais oui. Après 9 mois passés à dealer avec la précarité de la sous-location, je suis enfin devenue locataire. Waouh, chacune à son rythme. Hein. Et la perspective d'un été plus libre, le retour de la lumière, ça me fait beaucoup de bien. Et toi, ça va alors? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ta vie?
Ouais, ça va. Écoute, rien à déclarer pour l'instant. Hormis quelques news féministes assez gratinées cette semaine, peut-être tu peux nous en parler?
Oui, puisque Mediapart a recueilli les témoignages de plusieurs femmes qui déclarent avoir subi des agressions sexuelles de la part de l'essayiste Éric Zemmour.
Surprise.
Le premier des témoignages était venu de la part de Gaëlle L'Enfant, conseillère municipale d'opposition à Aix, dans les Bouches-du-Rhône donc. Elle avait raconté sur Facebook qu'en 2004, après un atelier thématique, l'écrivain l'avait d'abord complimentée sur sa robe avant de l'embrasser de force dans la foulée.
Éric Zemmour arrive, mais très en retard, à peu près une demi-heure en retard. Il y avait un siège vide devant moi, il s'assoit. Il me reconnaît, il me dit bonjour et il me demande de lui expliquer ce qui s'est passé, ce que je fais. Voilà, très bien, bon, l'atelier se termine. On se lève, je me lève, il se lève, il m'attrape par le cou, il me dit « cette robe te va très bien » et il m'embrasse de force. Et, c'était la surprise totale et immédiatement je me suis dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?»
Elle a depuis reçu des menaces et d'autres femmes ont suivi.
Bon, on va suivre cette affaire en tout cas. Et alors, pour parler du sujet qui nous occupe cette semaine, celui de la sororité, il faut dire que le terme connaît en ce moment un retour de hype sémantique, un peu comme patriarcat d'ailleurs, à tel point que des personnalités comme Marlène Schiappa s'en réclament depuis plusieurs années. Donc on voit que la sororité est vraiment assaisonnée à toutes les sauces. Et on a d'ailleurs fait un petit sondage sur Instagram auprès de vous, auditeurs et auditrices. Et les réponses étaient aussi variées que les personnes. C'est donc que ce concept n'est pas très clair pour l'instant.
Eh bien, il y a un recueil collectif dirigé par Chloé Delhomme, paru aux éditions Point, à qui, disclaimer, nous avons fait de la pub, qui donne des pistes. Elle-même avait déjà signé l'essai « Mes bien chères sœurs », où elle développait cette idée de cercle protecteur horizontal. On y retrouve des universitaires, des autrices, des chanteuses-compositrices, dont Jeanne Chéral, Juliette Armanet et d'autres, et autant de définitions que de personnes.
Oui, donc ce recueil, c'est effectivement l'occasion pour nous de parler de ce terme de sororité. Et on voit, en lisant tous ces textes, tu le dis, qu'il y a autant de définitions que de personnes. Par exemple, selon la chercheuse Iris Bray, la sororité s'incarne à travers les mains des femmes, des amantes, des amies, dans son expérience du corps féminin et en particulier de la maternité. Pour l'autrice Lola Lafont, c'est autre chose, puisque c'est l'expérience du viol qui va souder ensemble des inconnus. D'ailleurs, c'est un très beau texte. Pour l'universitaire Maboula Soumaoro, c'est littéralement la sororité donc, de ses sœurs. À travers l'expérience qu'elle a en étant une enfant de l'immigration et en étant avec ses sœurs à la fois abandonnée par leur père et aussi ignorée par leur mère, qui est traumatisée par plusieurs deuils périnataux.
Alors, à mes yeux, la sororité, c'est juste une pratique, c'est une pratique, c'est pas un simple mot, c'est une action, c'est un ensemble d'actions, c'est le soin, c'est l'attention portée à ses sœurs, aux femmes qui nous entourent et qu'on aime, qu'on protège, qu'on défend. Voilà, donc pour moi la sororité c'est pas juste un mot, c'est presque un verbe.
Pour Kiémis, qui est donc notre ancienne chroniqueuse de Quoi de Meuf,
oui.
La sororité, c'est plusieurs choses. Ça a été d'abord dans sa jeunesse des communautés en ligne qu'elle a pu découvrir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de plus politique. Et par exemple, la proposition du revenu universel. Donc elle explique voilà, qu'il y a une nécessité économique dans la sororité. Pour Fatima Wasak, puisque c'est son cheval de bataille, c'est plutôt un front uni et politique de mère. Mmh. Voilà, on ne va pas toutes les passer en revue, mais en tout cas, on voit bien que ces incarnations de la sororité peuvent être multiples, qu'il peut y avoir différentes interprétations, qu'elles peuvent être personnelles, individuelles, qu'elles peuvent être politiques ou collectives. Donc justement, c'est l'occasion de se pencher un peu sur l'histoire de ce terme. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ?
Oui, Chloé Delhomme l'énonce dès l'introduction de son livre. En latin médiéval, le mot sororité désignait une communauté religieuse de femmes et devient à partir du XVIe siècle une communauté de femmes ayant une relation, des liens, qualités, état de sœur. Tout ça en dehors de la structure familiale et religieuse, donc autrement dit en dehors de toute domination masculine. Tout ce temps, la sororité a dormi bien au chaud dans le dictionnaire et c'est le mouvement féministe des années 70, dit de la seconde vague, qui l'a réveillée.
Oui, c'est important de rappeler effectivement à quel moment ce terme a ressurgi, puisque que des femmes appellent des camarades de lutte mes sœurs, ça se faisait déjà auparavant, donc aux États-Unis notamment et au Royaume-Uni, au sein du très masculin parti des Black Panthers, qui a tout de même compté plus de 60% de femmes parmi ses activistes. Il faut le rappeler, mais c'est surtout un texte qui va paraître en 1970 qui va vraiment poser les bases de cette notion. C'est une anthologie publiée par Robin Morgan, qui est une poétesse et féministe radicale, qui s'appelle « Sisterhood is Powerful ». Et d'ailleurs, c'est une expression qui est restée jusqu'à aujourd'hui.
Join us now, sisterhood is powerful. The battle cry of the women's liberation movement rings out down New York's Fifth Avenue as more than 10,000 militant feminists stage a one-day strike for equal rights.
Et son idée à ce moment-là, c'est de démontrer qu'il y a bien une condition commune aux femmes et qu'elles subissent toutes le patriarcat. Alors nous, ça nous paraît peut-être évident aujourd'hui, mais il faut revenir un petit peu en arrière. Et d'ailleurs, à ce sujet, les journalistes Émilie Brouze et Rémi Noyon dans Rue 89 nous le rappellent. La tradition marxiste, qui a donc été très influente, notamment après la Seconde Guerre mondiale, soutenait qu'il ne pouvait pas y avoir de combat commun entre les femmes ouvrières et les femmes bourgeoises, comme si la question de la classe dominait toujours la question du genre, comme si ces deux questions-là ne pouvaient pas être pensées ensemble. Et donc la seule idée que les femmes puissent être solidaires entre elles en dehors de la surveillance des hommes et par-delà leurs différences et les frontières, va donc bouleverser radicalement la pensée politique de l'époque. Et donc c'est une notion qui a vraiment porté le mouvement, et c'est d'ailleurs toujours le cas. Et on peut en donner un exemple, puisqu'en 1990, donc au lendemain de la guerre froide, il y a un réseau internationaliste d'alliances féministes entre l'Est et l'Ouest qui se fonde.
Au-delà des nombreux slogans qu'elle a inspirés, la sororité a été le thème récurrent de nombreux écrits féministes, notamment ceux de Bell Hooks. Dans son texte le plus connu, intitulé « Sororité, la solidarité politique entre les femmes », la féministe noire américaine nous invite à désapprendre la suprématie masculine à travers la sororité. Je la cite « On nous enseigne que les relations que nous entretenons les unes avec les autres amoindrissent notre expérience au lieu de l'enrichir. » On nous enseigne que les femmes sont naturellement ennemies des femmes, que la solidarité n'existera jamais entre nous parce que nous ne pouvons et ne devons pas nous unir les unes aux autres. Nous avons bien appris ces leçons. Nous devons les désapprendre pour construire un mouvement féministe durable. Nous devons apprendre à vivre et à travailler dans la solidarité. Nous devons apprendre le véritable sens et la vraie valeur de la sororité.
Amen.
Justement, tout le problème que posent les différents usages du mot sororité, ça réside dans son véritable sens, dans sa vraie valeur. Ça porte quel sens d'ailleurs aujourd'hui, la sororité ?
Oui, c'est vrai que quand on parle de sororité aujourd'hui, on se demande un peu quelle pratique ça désigne précisément. Mmh. En tout cas, c'est une idée qui trouve des défenseurs et surtout des défenseuses chez nous en France. C'est le cas de Chloé Delhomme, qui est donc à l'origine de ce recueil collectif et qui avait déjà publié un texte sur ce sujet qui s'appelle « Mes bien chères sœurs », dans lequel elle écrivait « Vouloir ne jamais nuire volontairement à une femme ». D'ailleurs, c'est une décision qui est aussi partagée par l'élu Europe Écologie des Verts de Paris, Alice Coffin, qui en a parlé dans son livre « Le génie lesbien ». D'ailleurs, nous-mêmes, on l'a déjà évoqué dans un épisode. Elle explique qu'elle a décidé de ne pas critiquer les autres femmes, que ce n'est pas par angélisme ou par essentialisation de la nature féminine qui serait forcément bonne, mais elle explique qu'en fait, fait, il y aura toujours des gens qui vont être prêts à le faire. Et donc, c'est pas la peine forcément de se joindre voilà, à ce cœur de critique. Elle explique que c'est bien d'essayer d'en faire une démarche par rapport au patriarcat qui est depuis toujours organisé pour que les femmes ne se parlent pas entre elles et ne fassent pas groupe.
Outre-Atlantique, Amanda Mitchell, journaliste chez Cosmopolitan, raconte la sororité noire pendant la pandémie et le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Elle écrit sur ses amitiés féminines et le soutien essentiel qu'elle a pu y puiser. Mais la sororité, à ses yeux, ne revêt pas seulement une question d'identité de genre. Ce sont des humains qui font vous sentir moins seul et vous permettent de vous reposer sur elle quand vous en avez besoin. Les miennes et les miens valident mon identité noire, peu importe comment j'ai choisi de m'exprimer.
Oui, effectivement, la sororité peut aussi entretenir une forme de proximité avec l'amitié, et en particulier l'amitié féminine. Mmh. D'ailleurs, Kiemis le rappelle très bien dans le livre collectif, puisqu'elle parle de la compagnie des femmes et qu'elle explique qu'en cette compagnie, la peur d'être seule disparaît. Ça permet aussi de reposer l'amitié au cœur des rapports interpersonnels et des rapports intimes à la place du couple. Et c'est vraiment un sujet qui monte en ce moment, celui des amitiés féminines. D'ailleurs, il y a un livre sur le sujet qui est en anglais, qui s'appelle Big Friendship, écrit par Amina Tousseau et Anne Friedman du podcast Call Your Girlfriend.
We met through a mutual friend who we are both still friends with, which is always very exciting. She invited us both to come watch Gossip Girl at her house. And yes. So, you know, that really gives you a carbon dating on how old we are.
Et Chloé Delhomme, toujours elle, dans son dernier roman qui est sorti au moment de la rentrée littéraire, donc en septembre dernier, c'est Le cœur synthétique, va relier la question de la sororité à celle du célibat féminin avec, sans trop spoiler, la réinvention possible d'une communauté de femmes. C'est une piste qui est intéressante. Moi, j'ai aussi retenu dans le podcast La leçon, l'art d'échouer, l'intervention de la dessinatrice Pénélope Bagieux qui dit qu'elle ne fera plus jamais passer un mec avant une pote. Et en fait, elle raconte une anecdote de collège sur comment elle a privilégié le mec sur qui elle avait un crush par rapport à sa meilleure amie. Et donc, évidemment, ce crush a duré 3 jours. Et elle a foutu en l'air une amitié de plusieurs années pour ça. Néanmoins, donc, la sororité dont on voit ici tous les bénéfices n'est pas forcément une valeur absolue. C'est aussi une notion dont on peut voir les limites.
Effectivement, puisque le problème, Bell Hooks l'avait déjà énoncé dans les années 80, dans le texte que j'ai cité plus tôt, et il n'a pas changé. La sororité, aujourd'hui comme hier, c'est surtout un cri de ralliement proclamé par des femmes blanches et bourgeoises. Pour Bell Hooks, impossible de ne penser qu'à travers le prisme de la so-called condition commune. Les différences de classe et de race sont un fait sur lequel nous devons communément travailler, sinon impossible de lutter efficacement contre le patriarcat. Elle s'est d'ailleurs montrée très critique avec le sens que porte le mot sororité pour les féministes blanches radicales qui l'ont mis au goût du jour dans les années 70. Je cite, « Leur version de la sororité imposait que les sœurs devaient inconditionnellement aimer les unes et les autres, qu'elles devaient éviter le conflit et minorer leurs désaccords, qu'elles devaient s'abstenir de critiquer l'une ou l'autre, particulièrement en public. »
Oui, et sur ce point, Alice Coffin dit aussi que, en pratique, cette théorie ne fonctionne pas toujours, à moins de vivre chez les bisounours. Et dans le texte qu'elle a écrit pour l'anthologie de Chloé Delhomme, un texte qui s'appelle Sister Insider, elle écrit qu'elle-même doute du bien fondé de la démarche à laquelle elle s'astreint, c'est-à-dire de ne jamais critiquer une femme.
Pour Christine Delphi, le problème est ailleurs. La sororité, c'est carrément cucu, entre guillemets. Elle-même signataire d'une tribune transphobe auprès de Rue 89, la féministe matérialiste déplore le côté naturaliste de l'expression qui risque, selon elle, de faire revenir par la fenêtre ce qui a été sorti par la porte, à savoir l'origine supposée naturelle du groupe Les Femmes.
Oui, alors peut-être pour aller plus loin, pour être plus inclusif et inclusive, on peut aussi parler d'adelphité. C'est un terme qui connaît une certaine accélération en ce moment, notamment chez les mouvements de colleurs et de colleuses. Oui. Adelphe, c'est un terme qui vient du grec. En anglais, on peut le traduire par sibling. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. C'est une manière de dire frère et sœur, donc de faire communauté. Mmh. Et en tout cas, ça permet de dépasser la sempiternelle fraternité qui fait partie du blason de la France, oui, et d'inclure plus de personnes.
Pourquoi proposez-vous le terme d'adelphité pour remplacer celui de fraternité ? fraternité, c'est vraiment insuffisant, ça concerne les frères, et de préférence même les frères d'armes. Qu'est-ce que les sœurs ont à faire là-dedans? Entre les sœurs, il y a sororité, mais pour des relations entre frères et sœurs, comment désigner ce sentiment? C'est un mot que j'ai retrouvé. Je croyais l'avoir inventé, puis je me suis aperçue qu'il existait déjà au Moyen-Âge. Ce mot adelphité, qui vient du grec, le radical qui a donné Adelphos et Adelphé, le frère et la sœur, et donc sur lequel j'ai formé Adelphité.
Par ailleurs, je pense qu'il faut toujours faire attention, mais ça s'applique aussi à d'autres termes, à la récupération marketing et capitaliste du mot, et se demander, comme tu le disais précédemment, qui a un devoir de sororité? Est-ce en fonction de sa position sociale? Faut-il se forcer? Faut-il vivre dans un monde idéal? Bref, la sororité, ce n'est pas simplement un humanisme, ce n'est pas une injonction non plus, et peut-être que tout le monde ne peut pas se permettre de la pratiquer, ou de la pratiquer tout le temps, ou de la pratiquer de la même manière.
Alors, comment la pratiquer au mieux? Dans le texte « Sororité, la solidarité politique entre les femmes », Bellux préconise de rétablir la communication entre nous toutes, qu'elle soit positive ou potentiellement perçue comme négative, pour mieux comprendre et prendre activement part à la lutte des classes et antiraciste. Pour le coup aussi, j'ai trouvé intéressante l'expérience qu'a menée Alice Coffin dans l'anthologie publiée par Chloé Delhomme. Elle raconte la discussion qu'elle a eue avec les femmes qui s'en sont publiquement prises à elle et reprend leur argumentaire en démontant les points qui lui semblent être invalides.
Quel courage!
Oui.
Une autre piste qu'on peut évoquer, c'est l'admiration, la valorisation. D'ailleurs, c'est ce que propose dans son texte Esther Sarah Bull. On peut avoir l'éloge sélectif et donc on peut choisir de financer, de soutenir par exemple des personnes, des activistes ou des artistes qu'on aime, aider à diffuser leur travail. Voilà, c'est une manière de ne pas s'incruster sans être invité, mais en même temps d'aider et de participer. La sororité, elle s'invite aussi dans les médias. D'ailleurs, je vous recommanderais de lire la newsletter qui s'appelle Sorocité et d'écouter le podcast sur le cinéma et le féminisme qui s'appelle Sorociné.
Cool, voilà. Je ne connaissais pas.
Alors, on va écouter le témoignage de Sonia, qui a mis en place la sororité dans son association Women on Rails, qui est une association pour apprendre à coder.
Développeuse dans un monde de mecs, on a ressenti le besoin de se retrouver entre meufs pour apprendre ensemble. C'est comme ça qu'on a créé Women on Rails. Au début, on faisait des ateliers de code avec des mentors mecs, mais composés uniquement d'apprenantes femmes. Ça permettait déjà d'avoir un environnement plus safe que dans la plupart des ateliers proposés dans la communauté. Mais après quelques temps, on s'est rendu compte que ça ne collait pas avec ce qu'on essayait de proposer. Déjà parce que ça incluait un rapport de domination entre apprenantes et sachants, et surtout parce qu'il restait plein de situations problématiques où les mecs instauraient des rapports pas très nets et qu'on passait beaucoup de temps à se demander comment dire à un tel que son attitude n'allait pas et qu'il mettait en difficulté les nanas. Du coup, entre nous, c'était assez clair, mais on a pris grave de temps à trouver les bons mots pour ne pas froisser les mecs. Niveau réception, on a eu des réactions positives côté participants, c'est passé comme une lettre à la poste. En interne, ça n'a pas été la même histoire, et on a échangé beaucoup de discussions houleuses avec des personnes qui ne comprenaient pas que notre but n'était pas d'exclure les hommes, mais de permettre de créer un environnement vraiment safe. Tout y est passé, on n'avait pas assez de mentors femmes, c'était la discrimination envers les hommes, bref, on a tenu bon et on a bien fait. Une fois qu'on l'a fait, on a senti comme un poids en moins, chez nous comme chez les participantes. D'un coup, on a pu commencer à aborder des sujets plus lourds, comme par exemple le sexisme qu'on vivait dans des équipes 100% mecs, et ça typiquement, ça n'aurait pas été possible avec les hommes avec nous. C'était plus safe, plus reposant et plus empouvoirant.
Merci pour ce témoignage éclairant. Alors, on va parler un petit peu de notre expérience de la sororité. Comment est-ce que toi, tu la vis? Est-ce que tu ne la vis pas?
Eh bien, écoute, comme j'ai deux sœurs, une aînée et une cadette, j'avais déjà très jeune l'impression qu'au-delà des liens du sang, quelque chose de spécial nous liait toutes les trois, notamment parce que nous étions des filles. Je pense que je n'avais pas encore le vocabulaire féministe pour mettre un mot dessus, et aussi que je regardais beaucoup trop Charmed. Du coup, je le racontais déjà dans un autre épisode, mais d'avoir évolué dans un cocon qui a plus longtemps été exclusivement féminin qu'autre chose, ça a été fondateur dans mon rapport aux autres femmes. Je sais que l'amitié que j'entretiens avec des femmes est souvent plus intense, par exemple, plus profonde et plus sincère que celle que j'ai avec des hommes cisgenres. Ces relations représentent des soutiens fondamentaux autant pour moi que pour chacune d'entre elles. En tout cas, j'espère avoir su les soutenir. Les moments les plus heureux comme les plus difficiles, c'est avec elles que je les ai traversés et c'est sur leurs épaules que j'ai pleuré de tristesse comme de joie. La sororité, ça a été un outil et ça continue de l'être dans mon apprentissage du féminisme. Aujourd'hui, c'est d'une manière bien différente. Disons que je déchante, je ressens les limites du terme depuis quelques années. Je regrette par exemple qu'il y ait énormément d'entreprises et de girl bosses qui prônent publiquement ces valeurs, parmi elles des entreprises de presse. Voilà. Pour le petit taquet, mais qui en réalité profitent de l'omerta créée par les injonctions à la sororité pour user de techniques d'oppression envers d'autres femmes. Et tout ça dans le plus grand des calmes, bien sûr. Aussi, ça me gêne profondément que des femmes proclament une sororité mais restent insensibles au fait que si elles peuvent jouir aujourd'hui d'une indépendance économique et sociale, c'est bien souvent sur le dos d'autres femmes non blanches. Et je sais que je ne suis pas la seule à trouver ça regrettable. Alors effectivement, ça paraît bête à dire, mais je pense qu'il est tout de même bon de le rappeler. Aucune d'entre nous n'est parfaite, ni exempte de comportements oppressants. Toutefois, j'aimerais que justement, dans cet esprit sororal, on puisse enfin parler librement des questions qui fâchent, en l'occurrence des questions de race et de classe qui nous divisent, et surtout, surtout, agir en conséquence. Et c'est pour ça que j'utilise pas ou plus ce terme à toutes les sauces. Pour moi, pour le moment, mes sœurs, mes adelphes, sont celles et ceux qui luttent sur les mêmes terrains que moi. Mmh. Et toi, Clémentine, quel est ton rapport à la sororité ?
Alors moi, je suis d'accord avec toi sur certains points et pas d'accord sur d'autres. Et ouais. C'est normal, je pense. Ouais. Bah déjà, je suis d'accord, je trouve que la sororité, c'est un terme assez vague et assez fourre-tout. Et je pense que toi, comme moi, on ne savait pas trop quoi en faire avant de faire cet épisode. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je l'utilise assez peu parce que je m'en méfie un petit peu. En tout cas, je pense qu'il permet de poser plusieurs questions qui sont assez touchy, assez sensibles. Mmh. Et je trouve que c'est bien que cet épisode suive celui qu'on a fait sur la non-mixité, parce que précisément, on peut faire de la sororité une interprétation individuelle, mais aussi une interprétation collective. Mmh. Moi, c'est plus mon cas, et en tout cas, ça m'a aidé à repenser toutes ces questions-là et mon engagement féministe. Évidemment, moi, je ne peux parler de sororité que depuis ma position, qui est celle d'une féministe blanche. Ce n'est pas une chapelle, hein, je n'appelle personne à rejoindre ce groupe. Voilà, que j'essaie de déconstruire, évidemment, en plus, c'est mon métier. Et donc, c'est une position qui consiste, on le sait, à être dominée socialement par rapport aux hommes, mais à être aussi en position dominante par rapport à d'autres femmes. Mmh. Voilà, pour le rappel. Effectivement, je trouve qu'on emploie le terme sororité parfois n'importe comment, parfois comme un hashtag, comme un slogan sur des t-shirts, alors que, tu le disais dans les faits, elle se fait souvent sur le dos de personnes dominées. Mmh. Néanmoins, je pense que parce qu'il y a eu ces rapports de pouvoir et de domination, et que ceci continue sous d'autres formes aujourd'hui, des personnes qui sont dominées ou minorisées ne veulent pas de la sororité avec des féministes blanches ou des féministes hétéra, ce qui peut se comprendre. Oui. Mais ensuite, pour moi, ça pose la question de l'action collective dans un deuxième temps. C'est-à-dire que si on n'a plus aucun point de rassemblement et que chacun est dans son coin, pourquoi, in fine, être dans des mouvements féministes si ce n'est que pour protéger son intérêt individuel? Alors, je m'explique. On a parlé de la non-mixité et la non-mixité, c'est essentiel, c'est nécessaire et on le défend ici dans cette émission. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, ça reste une étape, c'est-à-dire que c'est censé être temporaire. Donc, moi, je pense ça aujourd'hui, peut-être j'aurais dit autre chose il y a un an ou il y a deux ans, mais maintenant, moi, j'en suis à un moment de mon cheminement où j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut s'unir. Et ça ne veut pas du tout dire effacer les différences, effacer les oppressions ou les invisibiliser. Pour moi, les deux choses doivent fonctionner ensemble. Et donc, cette idée de sororité et le fait d'avoir fait cet épisode, pour moi, a été très utile, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait, à un moment, en tout cas, des points communs et des luttes communes, en dépit de ces différences et des communautés qui existent tout à fait à raison. Du coup, comment est-ce qu'on fait, en fait, de manière pratique? Je pense qu'il y a des cas où il faut que les personnes concernées s'organisent seules, et d'autres cas où on a besoin que tout le monde fasse front à une date précise, donc le 8 mars ou le 25 novembre, par exemple, ou dans certains cas pour visibiliser des problèmes et peut-être montrer à la société que c'est important. Je pense peut-être à la lutte des travailleurs et des travailleuses du sexe, aux personnes sans papier, là c'est l'année un petit peu du féminisme, oui. Mais pour dire qu'en fait on ne va pas laisser ces personnes toutes seules dans la merde et qu'à un moment tout le monde doit venir ensemble. Donc ce n'est pas s'incruster dans des endroits où on ne veut pas de vous, c'est répondre à des invitations collectives. Dans un deuxième point, La sororité, elle permet aussi de penser les désaccords qu'on a entre militants et militantes. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Alice Coffin, mais aussi Ovidie, pour évoquer justement les dissensions qu'on a au sein des féminismes, puisque, en fait, c'est complètement normal qu'il y ait une coexistence de différents courants, d'ailleurs comme en politique, comme à gauche.
Oui.
Chaque courant se trouve plus légitime que les autres, avoir raison, etc. C'est normal en fait. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. Et donc pour donner un exemple des conflits qui existent dans nos milieux féministes, récemment on a pu voir des féministes qu'on appelle TERF, donc transphobes, et en face d'autres féministes intersectionnelles qui ont essayé de les dégager de la manifestation du 8 mars. Donc, que faire ? Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est angélique de penser ça. Personnellement, je suis très dérangée par les deux. Évidemment, je ne veux pas qu'on attaque les personnes trans. Ça, c'est une évidence, ça va sans dire. Mais je ne veux pas non plus qu'on se harcèle entre féministes. Et Lauren Bastide en parlait dans un podcast récemment, Génération XX. Elle expliquait qu'on ne peut pas critiquer entre nous la police et ensuite mettre en place dans nos rangs le même genre de logique entre nous. Ça ne va pas. Nous ne sommes pas la police. Une influenceuse sur Instagram le pointait aussi récemment. Elle raconte qu'il y a beaucoup de cas de harcèlement maintenant entre militants et entre militantes et que ça pourrait très mal finir. D'ailleurs, dans les militants et dans les militantes, il y a des personnes qui sont fragiles, qui sont polytraumatisées. Voilà, il faut le rappeler. Et pour moi, les appels à la haine, d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment ma limite. Donc, moi, je me suis rendu compte que mon féminisme, parfois, m'avait rendue assez intolérante, notamment vis-à-vis de personnes au sein de ce mouvement. Et du coup, je me force, en fait, à travailler la tolérance avec des gens avec qui je suis en désaccord profond. Mais, encore une fois, je ne peux le faire que parce que je ne suis pas méprisée ni menacée dans mon existence par ces gens, et j'en ai bien conscience. Donc, voilà, j'essaie de ne pas hiérarchiser les femmes bonnes ou mauvaises, de donner des bons points de féminisme, et donc je m'efforce de ne pas exclure des gens, et c'est très difficile, ça me coûte, comme Caroline Forest ou Elisabeth Beninter, encore une fois avec qui je ne suis pas du tout d'accord, mais qui, à mon sens, ont le droit d'appartenir au mouvement féministe, même si elles sont de droite et universalistes. Je ne vais pas les virer à coups de pied au cul des manifs. Je ne suis pas la police du féminisme. Et par ailleurs, je pense que si les seules personnes qui avaient le droit d'être féministes devaient à 100% être alignées sur toutes mes positions, on serait trois personnes. Donc, en fait, c'est aussi un choix stratégique que cette sororité-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'aime et que c'est les bisounours. Voilà. Voilà, ça permet de reposer la question des alliances et aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de ces ennemis, entre guillemets, qui coexistent au sein d'un même mouvement. Est-ce qu'il faut les ignorer? Est-ce qu'il faut les attaquer? Et comment est-ce qu'on peut temporairement, en tout cas, dépasser nos conflits et faire front quand il le faut? Puisque je pense que c'est quand même ça le but des mouvements féministes, c'est pas de se tirer dans les pattes en permanence, c'est aussi de faire évoluer la société et pas de se taper dessus. Et encore une fois, voilà, ce n'est pas pour invisibiliser les différences entre ces mouvements, elles existent, mais voilà, on peut aussi faire front à d'autres moments. Après, voilà, ma sororité a aussi des limites, c'est-à-dire que je conçois que Marine Le Pen soit victime de sexisme, mais je ne vais pas voter pour elle. Voilà.
Le moment
pop
culture
pop
culture.
Alors, passons à la pop culture, à la sororité dans la pop culture.
Yes, on a déjà fait un épisode sur la rivalité et le sexisme intériorisé. Dans la culture populaire, on met malheureusement plus souvent en scène l'adversité entre les femmes que leur solidarité. Je me souviens par exemple d'une scène ridicule de Gossip Girl que j'ai eu le déplaisir de revoir parce que ma meilleure amie s'en est récemment refait un marathon. Une dispute entre Serena et Blair où Serena incarnait une Marilyn Monroe des temps modernes et Blair une Audrey Hepburn. L'objet de leur dispute, évidemment, l'attention d'un homme, donc pas très Bechdel friendly tout ça.
Look, Blair, I'm really trying to make an effort here. I thought everything was good between us.
It was. Before I found out you had sex with my boyfriend.
How'd you find out?
Nate told me. At least he felt he owed me to tell the truth.
Je parle de Gossip Girl, mais en vrai, c'est dans le cas dans toutes les séries du genre avec lesquelles j'ai grandi, ou presque.
Et surtout, on verra si c'est encore le cas dans la nouvelle mouture de Gossip Girl.
J'espère pas. Aussi, et c'est à déplorer, les rares fois où l'on parle de sororité, il s'agit plus souvent de sororité estudiantine.
J'entends par là les maisons tenues par des groupes d'étudiantes dans les universités américaines. Mais là encore, il n'y a le plus souvent de sororité que le nom de ces organisations, ou en tout cas dans la représentation que s'en fait la culture populaire.
I am an S. I am an S.O. I am an S.O.R.O.R.I.T.Y. girl.
At universities across America, there's a network of elite secret societies known as the Greek system.
Oui, effectivement, il y a un motif qu'on retrouve très souvent dans la pop culture, c'est le catfight, donc la dispute entre chattes. C'est un terme qui vient aux États-Unis, en fait, des mariages mormons au 19e siècle, qui sont des mariages polygames dans lesquels il y a donc plusieurs épouses. Et ce terme-là, c'est vraiment un produit du backlash, donc du retour de bâton des années 60-70, qui va répandre l'idée selon laquelle les femmes seraient par nature compétitives entre elles, alors qu'en réalité, on sait qu'on les met en compétition parce qu'elles sont trop peu nombreuses, par exemple, dans le monde du travail. Et la chercheuse Rachel Reinke, aux États-Unis, a écrit que, alors qu'on considère que les hommes se battent pour devenir héroïques et victorieux, il n'y a pas du tout d'équivalent ou de fin de catfight chez les femmes. Voilà. Mm-hmm. D'ailleurs, dans le documentaire de Delphine Seyrig dans les années 70 qui s'appelle « Sois belle et tais-toi », il y a un certain nombre d'interviews de jeunes actrices hollywoodiennes, notamment de Jane Fonda, c'est très mignon, qui raconte qu'en fait, on ne leur fait même pas jouer de scènes avec des autres femmes. Donc c'est vraiment précurseur du test de Bechdel.
Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. Et on vous met dans une, comme les actrices savent tous, dans une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste. Et c'était, tu vois, des gens, des chefs de département de maquillage, de plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard, tous les autres. Bon, alors ils m'ont travaillé là, le visage, et puis ils m'ont redressé et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait avec les sourcils qui... Elle était un peu partout, des lèvres comme une aigle qui était énorme. Ils m'ont dit qu'il fallait que je tâte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être.
Et en tout cas, ce qu'ont en commun toutes ces œuvres, c'est de mettre en scène un faux combat, puisque le catfight, ce n'est pas une vraie bataille, c'est une parodie, une performance de combat qui est forcément ridicule. On le voit dans des films comme Lolita malgré moi, Le diable s'habille en Prada, dans des séries comme Dawson. Et donc, à chaque fois, il va s'agir de critiquer des autres femmes pour mieux fraterniser avec les hommes et donc invisibiliser l'aliénation patriarcale, puisque le vrai problème, en fait, ce serait les femmes. Donc, la solution à ça dans la culture, on l'a déjà dit, c'est valoriser par exemple l'entraide, la rendre cool. D'ailleurs, c'est le cas dans le nouveau SOS Fantôme, sans que ce soit, n'en déplaise à Christine Delphi, cucu ou bien pensant ou édifiant. Le film Mes meilleurs amis est un bon exemple puisqu'il commence par une rivalité et se termine par de l'entraide. Il y a un autre film auquel je pense, c'est Le Club des Ex, qui est un peu un film culte des années 80, dans lequel trois quinquagénaires se font jeter par leur mari pour des femmes plus jeunes et elles décident de s'unir et de se venger de ces hommes. Alors ça tourne un petit peu trop autour des mecs, mais il y a quand même de l'idée. Et surtout, il y a Diane Keaton, Bette Midler et Goldie Hawn. Donc voilà, casting 3 étoiles.
Vous croyez que j'exagère? Non et non, moi je vous parle de justice. Mettez-les là-dedans. Je déclare le club des ex ouvert.
Et on peut aussi penser à la série Grace and Frankie sur le même thème.
Tout à fait. En termes de film, je pense forcément aussi au portrait de la jeune fille en feu. Donc pour ne rien vous spoiler, je vous épargnerai le détail. Il y a aussi le cultissime Thelma et Louise et la série, la toute nouvelle série The Wild.
Ça, je connais pas.
C'est des jeunes filles qui se retrouvent isolées sur une île déserte et qui vont apprendre du coup à s'entraider pour mieux survivre.
Pas mal.
J'en dis pas plus.
Ça peut être utile, même en société. Et alors, pour parler de la sororité vraiment très littérale, donc la mise en scène des sœurs, il y a la série Better Things. Il y a des films comme Notre Petite Sœur de Kore-eda, qui est vraiment un bijou. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Il y a également Mustang de Denise Gamzee-Arguven et aussi le classique Virgin Suicide de Sofia Coppola.
En parlant de séries et de films sur de vraies sœurs, je me souviens des jumelles Tia et Tamera de la sitcom Sister Sister.
Mais oui.
C'était génial. Et de Charmed, du coup, que j'ai cité plus tôt, avec son pouvoir des trois. En termes de film, il y a aussi les filles du Dr. March. Alors par contre, moi, je me suis endormie devant.
C'est donc, normal, je crois.
Ouais, je pourrais pas vous en dire plus. Il y a aussi Daughters of the Dust de Julie Dash, qui est le premier long métrage réalisé par une femme afro-américaine distribué dans les salles de cinéma. Un film qui a inspiré notre très chère Beyoncé pour Lemonade.
Ouais, et pas qu'elle. C'est vraiment un film occulte.
Ouais. D'ailleurs, en musique, on peut parler de Beyoncé et de Solange, même si elles collaborent peu. À ce jour, il n'y a pas d'album ensemble qui est sorti, malheureusement.
Non.
C'est toujours un plaisir de les voir réunies sur scène, quoi qu'il arrive. Beyoncé faisait par ailleurs partie d'un girls band avant de lancer sa carrière solo, le très fameux Destiny's Child, un girls band très porté sur la sororité, en adversité contre les mecs, certes, ce qui les place au centre de la plupart de leurs paroles, et pas super féministe à tous les coups. Moi, je me souviens de Nasty Girl en particulier. Je vous recommande pas cette chanson. Mais bon, voilà, Beyoncé a mis aussi un coup de projecteur sur la carrière des jumelles Chloé et Ali.
Sans oublier le trio de sœurs Haïm. Et la journaliste Hélène Guinut nous l'a appris dans le magazine Elle. Vita Hamelbent et Camélia Jordana ont décidé d'intituler leur futur album « Soror ».
Hâte d'écouter ça. Ouais. En matière de livres qui parlent sororité, je cite une nouvelle fois « Zami, une autre façon de dire mon nom » et « Sister Outsider » d'Audrey Lorde. Et on m'a souvent recommandé « Chronique de ténébreuse », le roman de science-fiction de Marion Zimmer Bradley.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de meuf ? Alors cette semaine, tu nous recommandes un fanzine.
Oui, d'ailleurs cette semaine, j'ai deux recommandations culturelles pour le prix d'une, c'est-à-dire 0€. Le fanzine Morning, March and Celebration de la jeune photographe française Claire Zagnolo, d'origine guadeloupéenne et lauréate d'un concours organisé par Le Bal, qui est un espace d'exposition parisien dédié à la photographie documentaire. C'est, je la cite, « un hommage à la beauté, la force et la résilience de ma communauté, celle qui applaudit le coucher de soleil sur le port de Barra à Salvador de Bahia, celle qui s'anime au son de la soca et des chants caribéens de carnaval de Notting Hill, et celle qui, unie par la colère et le deuil, rassemble la foule lors des manifestations Black Lives Matter à Paris. » Aussi, je vous recommande la série Veneno sur la vie de la célèbre femme transgenre et travailleuse du sexe espagnole Cristina Ortiz Rodriguez, que vous pouvez visionner sur la plateforme de streaming de Brut, Brutix.
Cristina, la Veneno.
Oui, il faut s'abonner, malheureusement.
Voilà. Et t'as des recos culturels cette semaine, Clémentine ?
Oui, alors moi, c'est une série qui s'appelle Why Are You Like This, qui est une série australienne qui est tombée dans l'escarcelle de Netflix parce qu'elle coche un peu toutes les cases. C'est une parodie, comme a pu l'être Portlandia ou aussi Broad City, des millennials woke, donc nous. qui montre à la fois la légitimité et la nécessité de ces combats, ça c'est absolument acquis, mais aussi parfois leurs limites ou leur côté ridicule. Parce que je pense aussi qu'on est peut-être à un moment où nous, donc les personnes concernées, pouvons rire de nous-mêmes et de nos limites. Et donc ça suit trois amis et colocataires assez horripilants, dont une diversity officer qui est blanche, une jeune femme musulmane qui revendique haut et fort son incompétence, et un jeune homosexuel drag queen, qui est en fait une vraie drama queen. Voilà, et mention spéciale à la traditionnelle scène de Moon Cup coincée, un grand classique. Voilà. C'est une série très drôle. Je vous invite à la regarder.
Oh my god, I'm so excited for Mardi Gras this year. Aren't you excited for Mardi Gras?
Sure.
I'm working with a homophobe. And by the way, garlic can actually be really spicy depending on your palate.
I need a nice brown or Asian or whatever person to fuck.
Stop bullying her.
Another unrealistic expectation for women?
Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute?
Pour le courrier des auditeurs et auditrices, cette semaine, on tente de répondre à la question d'une personne qui nous a contactés sur Instagram, c'est-à-dire quels sont les sujets dans le féminisme qui restent peu explorés et pourquoi. Clémentine, est-ce que tu as une réponse ?
Alors, dans l'absolu, c'est difficile à dire et je pense que ça dépend peut-être par exemple du pays. En tout cas, de manière générale, tout ce qui n'est pas dominant, donc blanc, bourgeois, hétérosexuel, valide, etc., est toujours moins exploré. Par ailleurs, il y a aussi des sujets qui font l'objet de crispations particulières dans nos mouvements, pour ne citer que le voile, le porno, la prostitution et la transidentité, par exemple. Il y a aussi des questions qui restent assez taboues, comme le fait de parler d'argent. En tout cas, nous, on essaie, pour te répondre, de défricher des sujets qui ne sont pas trop rebattus et dont on va parler sous peu, la maternité, le vaginisme, voilà. Mais on ne va pas non plus vous donner tous nos sujets. Voilà.
Un peu de suspense.
C'est ça. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Si vous pratiquez la sororité ou que le sujet vous intéresse, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quademeuf. Vous pouvez aussi retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de la différence d'âge dans les couples, dans la pop culture. Un épineux sujet. Merci. Salut Emeline.
Salut Clémentine.
Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo.
Journaliste chroniqueuse Emeline Amétis.
Prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Mixage Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation, montage et coordination Ashley Tola.